Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Bonsoir. Nous revoici donc pour la suite du roman de Françoise Sagan, Bonjour Tristesse. En pension, on ne lit pas, sinon des œuvres édifiantes. À Paris, je n'eus pas le temps de lire. En sortant de mon cours, des amis m'entraînaient dans des cinémas. Je ne connaissais pas le nom des acteurs, cela les étonnait. Ou à des terrasses de café au soleil. Je savourais le plaisir d'être mêlé à la foule, celui de boire, d'être avec quelqu'un qui vous regarde dans les yeux, vous prend la main et vous emmène ensuite loin de la même foule. Nous marchions dans les rues jusqu'à la maison. Là, il m'attirait sous une porte et m'embrassait. Je découvrais le plaisir des baisers. Je ne mets pas de nom à ces souvenirs Jean, Hubert, Jacques. Des noms communs à toutes les petites jeunes filles. Le soir, je vieillissais. Nous sortions avec mon père dans des soirées où je n'avais que faire, soirées assez mélangées, où je m'amusais et où j'amusais aussi par mon âge. Quand nous rentrions, mon père me déposait et le plus souvent allait reconduire une amie. Je ne l'entendais pas rentrer. Je ne veux pas le laisser croire qu'il mit une ostentation quelconque à ses aventures. Il se bornait à ne pas me les cacher. Plus exactement, à ne rien me dire de convenable et de faux pour justifier la fréquence des déjeuners de tel ami à la maison ou son installation complète. Heureusement, provisoire. De toute façon, je n'aurais pu ignorer longtemps la nature de ses relations avec ses invités. Et il tenait sans doute à garder ma confiance. D'autant plus qu'il évitait ainsi des efforts pénibles d'imagination. C'était un excellent calcul. Son seul défaut fut de m'inspirer quelque temps un cynisme désabusé sur les choses de l'amour, qui, vu mon âge et mon expérience, devait paraître plus réjouissant qu'impressionnant. Je me répétais volontiers des formules lapidaires, celles d'Oscar Wilde, entre autres. Le péché est la seule note de couleur vive qui subsiste dans le monde moderne. Je la faisais mienne avec une absolue conviction. Bien plus sûrement, je pense, que si je l'avais mise en pratique. Je croyais que ma vie pourrait se calquer sur cette phrase, s'en inspirer, en jaillir comme une perverse image d'Épinal. J'oubliais les temps morts, la discontinuité et les bons sentiments quotidiens. Idéalement, j'envisageais une vie de bassesse et de turpitude. Le lendemain matin, je fus réveillé par un rayon de soleil oblique et chaud qui inonda mon lit et mit fin aux rêves étranges et un peu confus où je me débattais. Dans un demi-sommeil, j'essayais d'écarter de mon visage avec la main cette chaleur insistante, puis y renoncer. Il était 10 heures. Je descendis en pyjama sur la terrasse et y retrouvai Anne qui feuilletait des journaux. Je remarquai qu'elle était légèrement, parfaitement maquillée. Elle ne devait jamais s'accorder de vraies vacances. Comme elle ne me prêtait pas attention, je m'installai tranquillement sur une marche avec une tasse de café et une orange et entamai les délices du matin. Je mordais l'orange. Un jus sucré giclait dans ma bouche, une gorgée de café noir brûlant, aussitôt et à nouveau la fraîcheur du fruit. Le soleil du matin me chauffait les cheveux, déplissait sur ma peau les marques du drap. Dans 5 minutes, j'irai me baigner. La voix d'Anne me fit sursauter. « Cécile, vous ne mangez pas ?»« Je préfère boire le matin parce que vous devez prendre 3 kilos pour être présentable. Vous avez la joue creuse et on voit vos côtes. Allez donc chercher des tartines. » Je la suppliais de ne pas m'imposer des tartines et elle allait me démontrer que c'était indispensable lorsque mon père apparut dans sa somptueuse robe de chambre à pois. « Quel charmant spectacle !» dit-il. « 2 petites filles brunes au soleil en train de parler tartines. » « Il n'y a qu'une petite fille, hélas !» dit Anne en riant. « J'ai votre âge, mon pauvre Raymond !» Mon père se pencha et lui prit la main. « Toujours aussi rosse, » dit-il tendrement. Et je vis les paupières d'Anne battre comme sous une caresse imprévue. J'en profitai pour m'esquiver. Dans l'escalier, je croisai Elsa. Visiblement, elle sortait du lit, les paupières gonflées, les lèvres pâles, dans son visage cramoisi par les coups de soleil. Je faillis l'arrêter, lui dire qu'Anne était en bas avec un visage soigné et net, qu'elle allait bronzer sans dommage, avec mesure. Je faillis la mettre en garde. Mais sans doute l'aurait-elle mal pris. Elle avait 29 ans, soit 13 ans de moins qu'Anne, et cela lui paraissait un atout maître. Je pris mon maillot de bain et courus à la crique. À ma surprise, Cyril y était déjà assis sur son bateau. Il vint à ma rencontre, l'air grave, et me prit les mains. « Je voudrais vous demander pardon pour hier, » dit-il. « Oh, c'était ma faute, » dis-je. Je ne me sentais absolument pas gêné et son air solennel m'étonnait. « Je m'en veux beaucoup, » reprit-il en poussant le bateau à la mer. « Il n'y a pas de quoi, » dis-je allègrement. « Si ?» J'étais déjà dans le canot. Il était debout avec de l'eau jusqu'à mi-jambe, appuyé des deux mains au plat-bord comme à la barre d'un tribunal. Je compris qu'il ne monterait pas avant d'avoir parlé et le regardai avec toute l'attention nécessaire. Je connaissais bien son visage. Je m'y retrouvais. Je pensais qu'il avait 25 ans, se prenait peut-être pour un suborneur et cela me fit rire. « Ne riez pas, » dit-il. « Je m'en suis voulu hier soir, vous savez. Rien ne vous défend contre moi. Votre père, cette femme, l'exemple... Je serais le dernier des salauds, ce serait la même chose. Vous pourriez me croire aussi bien. » Il n'était même pas ridicule. Je sentais qu'il était bon et prêt à m'aimer. Que j'aimerais l'aimer. Je mis mes bras autour de son cou, ma joue contre la sienne. Il avait les épaules larges, un corps dur contre le mien. « Vous êtes gentil, Cyril, » murmurai-je. « Vous allez être un frère pour moi. » Il replia ses bras autour de moi avec une petite exclamation de colère et m'arracha doucement du bateau. Il me tenait serré contre lui, soulevé la tête sur son épaule. En ce moment-là, je l'aimais. Dans la lumière du matin, il était aussi doré, aussi gentil, aussi doux que moi. Il me protégeait. Quand sa bouche chercha la mienne, je me mis à trembler de plaisir comme lui, et notre baiser fut sans remords et sans honte. Seulement une profonde recherche entrecoupée de murmures. Je m'échappai et nageai vers le bateau qui partait à la dérive. Je plongeai mon visage dans l'eau pour le refaire, le rafraîchir. L'eau était verte. Je me sentais envahi d'un bonheur, d'une insouciance parfaite. À 11h30, Cyril partit et mon père et ses femmes apparurent dans le chemin des chèvres. Ils marchaient entre les deux, les soutenant, leur tendant successivement la main avec une bonne grâce, un naturel qui n'était qu'à lui. Anne avait gardé son peignoir. Elle l'ôta devant nos regards observateurs avec tranquillité et s'y allongea. La taille mince, les jambes parfaites, elle n'avait contre elle que de très légères flétrissures. Cela représentait sans doute les années de soins, d'attention. J'adressai machinalement à mon père un regard approbateur, le sourcil levé. À ma grande surprise, il ne me le renvoya pas, ferma les yeux. La pauvre Elsa était dans un état lamentable, elle se couvrait d'huile. Je ne donnai pas une semaine à mon père pour... Anne tourna la tête vers moi. « Mais Cécile, pourquoi vous levez-vous si tôt ici? À Paris, vous étiez au lit jusqu'à midi. »« J'avais du travail, dis-je. Ça me coupait les jambes. » Elle ne sourit pas. Elle ne souriait que quand elle avait envie, jamais par décence, comme tout le monde. « Et votre examen? Loupé !» dis-je avec entrain. « Bien loupé !»« Il faut que vous l'ayez en octobre, absolument !» Pourquoi ? Intervint mon père. Je n'ai jamais eu de diplôme, moi, et je mène une vie fastueuse. Vous aviez une certaine fortune au départ, rappela Anne. Ma fille trouvera toujours des hommes pour la faire vivre, dit mon père, noblement. Elsa se mit à rire et s'arrêta devant nos trois regards. Il faut qu'elle travaille ses vacances, dit Anne, en refermant les yeux pour clore l'entretien. J'envoyai un regard désespéré à mon père. Il me répondit par un petit sourire gêné. Je me vis devant des pages de Bergson avec ses lignes noires qui me sautaient aux yeux et le rire de Cyril en bas. Cette idée m'épouvanta. Je me traînai jusqu'à Anne, l'appelai à voix basse. Elle ouvrit les yeux. Je penchai sur elle un visage inquiet, suppliant, en ravalant encore mes joues pour me donner l'air d'une intellectuelle surmenée. « Anne, dis-je, vous n'allez pas me faire ça, me faire travailler par ces chaleurs, ces vacances qui pourraient me faire tant de bien ?» Elle me regarda avec fixité un instant, puis sourit mystérieusement en détournant la tête. « Je devais vous faire ça !» Même par ces chaleurs, comme vous dites. Vous m'en voudriez que pendant 2 jours, comme je vous connais, et vous auriez votre examen. Il y a des choses auxquelles on ne se fait pas, dis-je sans rire. Elle me lança un coup d'œil amusé et insolent, et je me recouchai dans le sable, pleine d'inquiétude. Elsa pérorait sur les festivités de la côte. Mais mon père ne l'écoutait pas. Placé au sommet du triangle que faisait leur corps, il lançait au profil renversé d'Anne, à ses épaules, des regards un peu fixes, un peu vides, que je reconnaissais. Sa main s'ouvrait et se refermait sur le sable, en un geste doux, régulier, inlassable. Je courus vers la mer, m'y enfonçai, en gémissant sur les vacances que nous aurions pu avoir, que nous n'aurions pas.
La vie m'a doublé, c'est pas régulier pour un pauvre lézard qui vit par hasard dans la société. Mais la société, je veux pas m'en mêler, je suis un type papa. Une graine d'ananas. On me dit que j'ai poussé en dessous d'un gibet où mon grand-papa balançait déjà avec un collier. Un collier tressé de chanvre, il était un foutu foulard à graines d'ananas. J'avais des copains qui mangeaient mon pain, car le pain c'est fait pour être partagé dans notre société. C'est pas moi qui le dis, mais c'est Jésus-Christ, un foutu bavard à gueule d'ananas. Si j'avais des sous, on me demanderait où les as-tu gagnés sans avoir trimé pour la société. Mais comme j'en ai pas, faut lui dire pourquoi c'est jamais peinard, la graine d'ananas. On me dit que c'est fini, je vous dis comme on le dit, et qu'on me pendra au nom de la loi et de la société. De la belle société qui se met à se mêler de mettre au rancard la graine d'ananas. Autant se double, l'oiseau fait son nid, messieurs les corbeaux passeront ma peau comme à l'étamine. Mais auparavant, j'aurais comme le vent semé quelque part ma graine d'ananas.
Lectures en liberté, Denis Flagel.
Bonjour Tristesse, Françoise Sagan. Nous avions tous les éléments d'un drame. Un séducteur, une demi-mondaine et une femme de tête. J'aperçus au fond de la mer un ravissant coquillage, une pierre rose et bleue. Je plongeai pour la prendre, la garder toute douce et usée dans la main jusqu'au déjeuner. Je décidai que c'était un porte-bonheur, que je ne la quitterais plus de l'été. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas perdue, comme je perds tout. Elle est dans ma main aujourd'hui, rose et tiède. Elle me donne envie de pleurer. Ce qui m'étonna le plus les jours suivants, ce fut l'extrême gentillesse d'Anne à l'égard d'Elsa. Elle ne prononçait jamais, après les nombreuses bêtises qui illuminaient sa conversation, une de ces phrases brèves dont elle avait le secret et qui auraient couvert la pauvre Elsa de ridicule. Je la louais en moi-même de sa patience, de sa générosité. Je ne me rendais pas compte que l'habileté y était étroitement mêlée. Mon père se serait vite lassé de ce petit jeu féroce. Il lui était au contraire reconnaissant et il ne savait que faire pour exprimer sa gratitude. Cette reconnaissance n'était d'ailleurs qu'un prétexte. Sans doute lui parlait-il comme à une femme très respectée, comme à une seconde mère de sa fille. Il usait même de cette carte en ayant l'air sans cesse de me mettre sous la garde d'Anne, de la rendre un peu responsable de ce que j'étais, comme pour se la rendre plus proche, pour la lier à nous plus étroitement. Mais il avait pour elle des regards, des gestes, qui s'adressaient à la femme qu'on ne connaît pas et que l'on désire connaître dans le plaisir. Ces regards que je surprenais parfois chez Cyril et qui me donnait à la fois envie de le fuir et de le provoquer. Je devais être sur ce point plus influençable qu'Anne. Elle témoignait à l'égard de mon père d'une indifférence, d'une gentillesse tranquille qui me rassurait. J'en arrivais à croire que je m'étais trompé le premier jour. Je ne voyais pas que cette gentillesse sans équivoque surexcitait mon père. Et surtout, ses silences. Ses silences si naturels, si élégants. Il formait avec le pépiment incessant d'Elsa une sorte d'antithèse comme le soleil et l'ombre. Pauvre Elsa. Elle ne se doutait vraiment de rien. Elle restait exubérante et agitée, toujours aussi défraîchie par le soleil. Un jour cependant, elle dut comprendre, intercepter un regard de mon père. Je la vis avant le déjeuner murmurer quelque chose dans son oreille. Un instant, il eut l'air contrarié, étonné, puis acquiesça en souriant. Au café, Elsa se leva et, arrivée à la porte, se retourna vers nous d'un air langoureux, très inspiré, à ce qu'il me sembla, du cinéma américain, en mettant dans son intonation 10 ans de galanterie française. « Vous venez, Raymond ?» Mon père se leva, rougit presque et la suivit en parlant des bienfaits de la sieste. Anne n'avait pas bougé. Sa cigarette fumait au bout de ses doigts. Je me sentis dans l'obligation de dire quelque chose. Les gens disent que la sieste est très reposante, mais je crois que c'est une idée fausse. Je m'arrêtai aussitôt consciente de l'équivoque de la phrase. « Je vous en prie, » dit Anne sèchement. Elle n'y avait même pas mis d'équivoque. Elle avait tout de suite vu la plaisanterie de mauvais goût. Je la regardais. Elle avait un visage volontairement calme et détendu qui m'émut. Peut-être, en ce moment, enviait-elle passionnément Elsa. Pour la consoler, une idée cynique me vint qui m'enchanta comme toutes les idées cyniques que je pouvais avoir. Cela me donnait une sorte d'assurance, de complicité avec moi-même, enivrante. Je ne pus m'empêcher de l'exprimer à haute voix. Remarquez qu'avec les coups de soleil d'Elsa, ce genre de sieste ne doit pas être très grisant, ni pour l'un ni pour l'autre. J'aurais mieux fait de me taire. « Je déteste ce genre de réflexion, » dit Anne. « À votre âge, c'est plus que stupide, c'est pénible. » Je m'énervais brusquement. Je disais ça pour rire. Excusez-moi, je suis sûr qu'au fond, ils sont très contents. Elle tourna vers moi son regard excédé. Je lui demandai pardon aussitôt. Elle referma les yeux et commença à parler d'une voix basse, patiente. « Vous vous faites de l'amour ? Une idée un peu simpliste. Ce n'est pas une suite de sensations indépendantes les unes des autres. » Je pensais que toutes mes amours avaient été ainsi. Une émotion subite devant un visage, un geste, sous un baiser. Des instants épanouis sans cohérence. C'était tout le souvenir que j'en avais. « C'est autre chose, » disait Anne. « Il y a la tendresse constante, la douceur, le manque, des choses que vous ne pouvez pas comprendre. » Elle eut un geste évasif de la main et prit un journal. J'aurais aimé qu'elle se mît en colère, qu'elle sortît de cette indifférence résignée devant ma carence sentimentale. Je pensais qu'elle avait raison, que je vivais comme un animal au gré des autres, que j'étais pauvre et faible. Je me méprisais, et cela m'était affreusement pénible parce que je n'y étais pas habitué, ne me jugeant pour ainsi dire pas ni en bien ni en mal. Je montai dans ma chambre, je rêvassais. Mes draps étaient tièdes sous moi, j'entendais encore les paroles d'Anne. « C'est autre chose, c'est un manque. Quelqu'un m'avait-il jamais manqué ? Je ne me rappelle plus les incidents de ces 15 jours. Je l'ai déjà dit, je ne voulais rien voir de précis, de menaçant. De la suite de ces vacances, bien sûr, je me rappelle très exactement, puisque j'y apportais toute mon attention, toutes mes possibilités. Mais ces 3 semaines-là, ces 3 semaines heureuses, en somme, quel est le jour où mon père regarda ostensiblement la bouche d'Anne, celui où il lui reprocha à voix haute son indifférence en faisant semblant de rire, celui où il compara sans en sourire sa subtilité avec la semi-bêtise d'Elsa. Ma tranquillité reposait sur cette idée stupide qu'ils se connaissaient depuis 15 ans et que s'ils avaient dû s'aimer, ils auraient commencé plus tôt. Et, me disais-je, si cela doit arriver, mon père sera amoureux 3 mois et Anne en gardera quelques souvenirs passionnés et un peu d'humiliation. Ne savais-je pas cependant qu'Anne n'était pas une femme que l'on pût abandonner ainsi. Mais Cyril était là et suffisait à mes pensées. Nous sortions ensemble souvent le soir dans les boîtes de Saint-Tropez. Nous dansions sur les défaillances d'une clarinette en nous disant des mots d'amour que j'avais oubliés le lendemain, mais si doux le soir même. Le jour, nous faisions de la voile autour de la côte. Mon père nous accompagnait parfois. Il appréciait beaucoup Cyril, surtout depuis que ce dernier lui avait laissé gagner un match de crawl. Il l'appelait « mon petit Cyril ». Cyril l'appelait « monsieur ». Mais je me demandais lequel des deux était l'adulte. Un après-midi, nous allâmes prendre le thé chez la mère de Cyril. C'était une vieille dame tranquille et souriante qui nous parla de ses difficultés de veuve et de ses difficultés de mère. Mon père compatit, adressa à Anne des regards de reconnaissance, fit de nombreux compliments à la dame. Je dois avouer qu'il ne craignait jamais de perdre son temps. Anne regardait le spectacle avec un sourire aimable. Au retour, elle déclara la dame charmante. J'éclatai en imprécations contre les vieilles dames de cette sorte. Ils tournèrent vers moi un sourire indulgent et amusé qui me mit hors de moi. « Vous avez des idées à la mode, mais sans valeur, » dit Anne. C'était peut-être vrai. Je pensais ce que je disais, mais il était vrai que je l'avais entendu dire. Néanmoins, ma vie, celle de mon père, allait à l'appui de cette théorie, et Anne me blessait en la méprisant. On peut être aussi attaché à des futilités qu'à autre chose, mais Anne ne me considérait pas comme un être pensant. Il me semblait urgent, primordial, soudain, de la détromper. Je ne pensais pas que l'occasion me serait donnée si tôt, ni que je saurais la saisir. D'ailleurs, j'admettais volontiers que dans un mois, j'aurais sur telle chose une opinion différente, que mes convictions ne dureraient pas. Comment aurais-je pu être une grande âme? Et puis un jour, ce fut la fin. Un matin, mon père décida que nous irions passer la soirée à Cannes, jouer et danser. Je me rappelle la joie d'Elsa. Dans le climat familier des casinos, elle pensait retrouver sa personnalité de femme fatale, un peu atténuée par les coups de soleil et la demi-solitude où nous vivions. Contrairement à mes prévisions, Anne ne s'opposa pas à ces mondanités. Elle en sembla même assez contente. Ce fut donc sans inquiétude que, sitôt le dîner fini, je montai dans ma chambre mettre une robe du soir, la seule d'ailleurs que je possédasse. C'était mon père qui l'avait choisie. Elle était dans un tissu exotique, un peu trop exotique pour moi sans doute, car mon père, soit par goût, soit par habitude, m'habillait volontiers en femme fatale. Je le retrouvai en bas, étincelant dans un smoking neuf, et lui mis le bras autour du cou. « Tu es le plus bel homme que je connaisse. » À part Cyril, dit-il, sans le croire. Et toi, tu es la plus jolie fille que je connaisse. Après Elsa et Anne, dis-je, sans y croire moi-même. Puisqu'elles ne sont pas là et qu'elles se permettent de nous faire attendre, viens danser avec ton vieux père et ses rhumatismes. Je retrouvai l'euphorie qui précédait nos sorties. Il n'avait vraiment rien d'un vieux père. En dansant, je respirais son parfum familier d'eau de Cologne, de chaleur, de tabac. Il dansait en mesure, les yeux mi-clos, un petit sourire heureux, irrépressible, comme le mien, au coin des lèvres. Il s'arrêta de danser pour accueillir d'un murmure machinal et flatteur l'arrivée d'Elsa. Elle descendait l'escalier lentement dans sa robe verte, un sourire désabusé de mondaine à la bouche, son sourire de casino. Elle avait tiré le maximum de ses cheveux desséchés et de sa peau brûlée par le soleil. Mais c'était plus méritoire que brillant. Elle ne semblait pas, heureusement, s'en rendre compte. Donc nous avons terminé pour ce soir ce roman, enfin la suite de ce roman de Françoise Sagan, Bonjour Tristesse, que nous retrouverons demain. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.